Chapitre 22. Le terrain de sport. Amit. Un brin de toilette. Gâteau. Les brûleurs. 1. On gravit des escaliers. Évidemment. Quand vous étiez prisonnier à Deep Maline, les escaliers, c'était un mode de vie. Après 10 minutes de montée, Amé avait du mal à respirer. Ayota lui prit le bras et le tira. « Allez du nerf, l'incapable! Continue à avancer, sinon papa va te gronder !» On atteignit un vaste palier et une porte à double battant. Un des deux soldats de la nuit qui conduisait ce pathétique défilé frotta ses mains l'une contre l'autre au-dessus de sa tête et la porte s'ouvrit d'un coup. De l'autre côté se trouvait un monde différent, plus propre, un couloir de carreaux blancs avec des brûleurs à gaz lustrés et éclatants. Ce couloir formait une rampe inclinée, et tandis qu'on progressait sous cette lumière brillante à laquelle on n'était plus habitué, je n'étais pas le seul à plisser les yeux. Je perçus une odeur que j'avais connue dans des dizaines de vestiaires. Le chlore, comme les pastilles dans les urinoirs et le truc qu'ils mettaient dans les pédiluves. Savais-je alors ce que signifiait le terme « récréation » ? Bien sûr. Savais-je ce que représentait l'expression « un contre un, idem. Dans nos cellules, manger, dormir et parler étaient nos seules occupations. Je faisais attention aux questions que je posais, car je voulais continuer à faire croire que je venais de la communauté religieuse d'Ulum, et par conséquent, j'écoutais plus que je ne parlais. Malgré tout, j'étais stupéfait par ce couloir incliné qui aurait pu appartenir à un complexe sportif dernier cri parfaitement entretenu sur un de ces campus où le sport est roi. L'Ilimar n'était plus que ruine, à l'instar de tout Empis. Mais ce couloir était impressionnant, et je devinais que ce à quoi il conduisait le serait tout autant. Au plus, peut-être. Je ne me trompais pas. On passa devant plusieurs portes, chacune surmontée d'un brûleur à gaz capuchonné. Sur les 3 premières, on pouvait lire « Équipe », sur la suivante « Matériel », et sur la 5e « Officiel. » Je la regardais du coin de l'œil en passant, toujours à la traîne, et le mot « officiel » prit l'apparence de cet enchevêtrement de runes que j'avais vu sur le permis de conduire de Paulet quand Kéline me l'avait montré. Je me retournais, juste le temps de voir réapparaître le mot « officiel » et de recevoir un coup de badine sur l'épaule, pas très violent, juste assez pour attirer mon attention.
« Avance, petit !»
Devant moi, le couloir s'achevait dans une explosion de lumière aveuglante. Je débouchais à la suite des autres sur un terrain de sport. Mais quel terrain ! Je regardais autour de moi d'un air hébété comme le plouc d'Ulum que je prétendais être. Depuis que j'étais sorti de ce tunnel qui reliait mon monde à Empis, j'avais connu pas mal de chocs, mais jamais jusqu'à cet instant je n'avais pensé « je dois arriver ». D'énormes brûleurs à gaz, nichés dans des sortes de vasques que j'avais vues de l'extérieur, bordaient la circonférence d'un stade qui aurait fait la fierté d'une équipe de baseball de la Ligue professionnelle. Ils projetaient dans le ciel des jets enflammés, bleus et blancs, que reflétaient les nuages omniprésents. Le ciel ! On est à l'extérieur ! Et il faisait nuit, même si pour nous, la journée ne faisait que commencer. Logique, si on considère que nos ravisseurs squelettes ne pouvaient pas exister dans la journée. N'empêche, ça faisait bizarre de constater que mes rythmes de réveil et de sommeil avaient été inversés. On traversa une piste de course pour marcher sur une pelouse moelleuse. J'avais foulé de nombreux terrains, que ce soit pour jouer au baseball ou au football, mais jamais je n'en avais vu un aussi parfaitement rond. Quel sport s'était pratiqué ici autrefois ? Impossible de le savoir. Mais sans doute était-il très populaire, car, à en juger par les allées en moulin à vent qui conduisaient à ce stade et les rangées de gradins qui l'entouraient, qui montaient jusqu'au sommet de l'enceinte, il devait attirer des milliers de supporters empissariens. Je vis les 3 flèches disparaître dans les nuages droit devant. Des tourelles de pierre se dressaient sur ma droite et sur ma gauche. Quelques soldats de la nuit, entourés de leurs linceuls d'un bleu intense, postés sur les parapets qui couraient entre les tourelles, nous surveillaient. sur le chemin du cadran solaire, je n'avais vu que la partie supérieure du stade car il était situé en contrebas, à l'arrière du palais. Quelque part, sans doute au pied de ces immenses flèches vertes en verre, il y avait une salle du trône et des appartements royaux. À l'image des boutiques autrefois installées le long de la route des Galiens, ces endroits étaient réservés aux gratins. Nul doute qu'ils revêtaient une grande importance pour les gens ordinaires que j'imaginais empruntant ces allées aux couleurs vives les jours de match, venant du front de mer, de Disque, peut-être même d'Ouloum et des îles vertes. Ils portaient des paniers de pique-nique, chantaient les hymnes de leur équipe et scandaient leur nom. Une badine s'abattit sur mon bras, plus fort cette fois. Me retournant, je découvris une tête de mort souriante à l'intérieur de l'enveloppe semi-transparente d'un visage.
« Arrête de faire des yeux de merlan frit comme le dernier des abrutis. C'est le moment de courir, petit. Va falloir te bouger. »
Ayota précéda notre groupe sur la piste de course circulaire qui bordait le terrain incroyablement vert. Les autres le suivirent, deux par deux ou trois par trois. Ahmet était le dernier. Pas étonnant. Au-dessus de ce que je devinais être l'avant du terrain, en surplomb, s'avançait une sorte d'immense salon à ciel ouvert. Pour compléter le tableau, il ne manquait plus qu'un lustre tape à l'œil. Des fauteuils capitonnés, comme ceux installés dans les loges du Guaranteed Rate Field, le stade de baseball de Chicago, flanquaient ce qui était manifestement la place d'honneur. Moins imposant que le trône de Anna, depuis lequel elle surveillait l'arrière du palais, quand elle n'était pas occupée à manger ou à dormir, ce siège était extra large malgré tout, et les accoudoirs partaient vers l'extérieur, comme si celui qui avait le privilège de s'y asseoir était un poids lourd gonflé aux stéroïdes, des hanches aux épaules. Une demi-douzaine de personnes assises dans les fauteuils capitonnés, disposées de part et d'autre de ce siège inoccupé, nous regardaient courir devant elles. Ces gens sains arboraient de beaux vêtements, c'est-à-dire pas des haillons comme la plupart d'entre nous. Parmi elles se trouvait une femme au visage très pâle, du maquillage sans doute. Elle portait une longue robe au col à frou-frou. Des pierres précieuses faisaient étinceler ses bagues et ses barrettes. Toutes les personnes présentes dans la loge buvaient ce qui était peut-être de la bière dans de grands verres. Voyant que je l'observais, un des hommes leva le sien dans ma direction, comme s'il trinquait à ma santé. Tout se fichait une expression que je qualifierais d'ennui, relevée d'une petite pincée d'intérêt. Je les détestais d'emblée, comme seul un prisonnier qu'on a fouetté à coups de badine métallique peut détester un groupe d'oisifs bien habillés qui tue le temps assis sur leur cul. Cet endroit n'a pas été bâti pour des connards de ce genre, pensais-je. Je ne sais pas comment je le sais, mais je le sais. Je reçus encore un coup de badine sur le fond de mon pantalon de plus en plus crasseux. La douleur était comme une brûlure.
On ne t'a jamais dit que c'était mal poli de fixer les gens qui te sont supérieurs.
Je commençais à détester également ces voix d'insectes bourdonnantes. C'était comme écouter non pas un seul Dark Vador, mais un peloton entier. Je pressai le pas et dépassai Stokes. Il m'adressa un doigt d'honneur à la mode empissarienne. Je le lui rendis. Je zigzaguai entre mes compagnons de Deep Maline, ce qui me valut un petit coup d'épaule amical de Tom et un autre, moins amical, d'un malabar aux jambes légèrement arquées nommé Amit.
Hé, regarde où tu vas, Ouli !
Grogna-t-il.
Il n'y a pas de dieu pour te protéger ici. T'as laissé tout ça derrière toi.
C'est lui que je laissais derrière moi. En l'occurrence, et avec joie, la vie était déjà assez dure. Je n'avais pas besoin que mes compagnons de détention la rendent encore plus difficile. Au centre du terrain, je reconnus différents accessoires que j'avais rencontrés au cours de mes entraînements depuis l'époque où je jouais au football en poussin et plus tard au hockey. Des sortes de traverses de chemin de fer formaient une double rangée. De gros sacs en toile étaient déformés par des bosses qui ne pouvaient être que des ballons. Il y avait une rangée de perches enveloppées de toiles de jute. Au sommet de chacune, on avait fixé un visage à l'air renfrogné, grossièrement peint. Des mannequins de plaquage à la mode d'Empis, sans doute. Des cordes terminées par des anneaux se balançaient à une barre en T. Un large panneau de bois juché sur des chevalets était flanqué de bottes de paille. Un peu plus loin, un panier d'osier contenait ce qui ressemblait à des manches de hache. Tout cela ne me disait rien qui vaille. Le coach Harkness nous imposait parfois des exercices que certains pourraient qualifier de sadiques, mais nous taper dessus mutuellement avec des bâtons, jamais. J'atteignais la tête de la course à l'endroit où la piste passait, juste devant la loge VIP. Je me portais à la hauteur d'Ayota qui courait la tête en arrière, le torse en avant, en agitant les bras comme des pistons. Ne lui manquait plus qu'un petit halter dans chaque main pour ressembler à ces types d'un certain âge qui entretenaient leur forme en trottinant dans mon quartier. Et un survêtement, peut-être. « Tu veux faire la course ?» proposai-je. « Hein ? Pour que cette salope de Petra et les autres parient sur le vainqueur ?» D'un mouvement du pouce, il montra les spectateurs élégants qui sirotaient leur rafraîchissement. Deux autres les avaient rejoints. Bon sang, on se serait cru dans un cocktail. Deux soldats de la nuit flanquaient le petit groupe. « Tu trouves qu'on n'a pas assez de problèmes ?»«
Oui, sans doute. »
« D'où est-ce que tu viens réellement, Charlie ? Tu n'es pas un houli. »
Je vis Ahmet quitter la piste, et cela m'évita de devoir répondre. D'un pas lourd, tête baissée, Ahmet se dirigea vers le matériel d'entraînement. Sa frêle poitrine se soulevait et retombait. Entre le panier d'osier contenant les bâtons, je ne voyais pas ce que ça pouvait être d'autre, et les mannequins de plaquage au visage plat et grimaçant, étaient installés des bancs et une table couverte de petites tasses en argile cuite. Ahmet en prit une, la vida d'un trait et la reposa. Il s'assit sur un banc, les avant-bras posés sur les cuisses, les yeux fixés au sol. La table était gardée, ou protégée, par un soldat de la nuit qui regarda Ahmet sans se donner la peine de le frapper.
« N'essaie pas d'en faire autant !»
halta Ayota.
« Ils te fouetteront jusqu'au sang !»
Et lui, pourquoi il le laisse faire?
Ils savent qu'il peut pas tenir le coup. Voilà pourquoi. C'est monsieur l'incapable, non? Mais il est sain. Et sans lui, on n'est plus que 30.
Je ne vois pas comment. Je veux dire, quand le 1 contre 1 débutera, à supposer que ça arrive un jour, il croit vraiment qu'il pourra se battre?
Il n'y croit pas, répondit Ayota.
Et je perçus une note étrange dans sa voix. De la compassion, peut-être, ou plutôt une forme de solidarité. Non pas qu'il ait éprouvé de l'affection pour Ahmet, mais il aimait encore moins la situation dans laquelle on se trouvait.
« T'es jamais essoufflé, petit. Encore un tour et je vais aller m'asseoir sur le banc avec l'incapable. Ils pourront me tabasser avec leur foutu badine autant qu'ils veulent. »
Je faillis lui expliquer que j'avais pratiqué de nombreux sports, mais il risquait de me demander lesquels, et je ne savais même pas à quoi on jouait sur cette grande étendue de gazon.
Je faisais beaucoup d'exercices, jusqu'à ce que j'arrive ici. Et appelle-moi Charlie, plutôt que Petit. C'est comme ça que eux, ils nous appellent.
Allons-y pour Charlie.
Du pouce, Ayota montra Ahmet sur son banc, incarnation de l'abattement.
Ce blaireau n'est qu'un cadavre ambulant. De la chair à canon.
Il n'avait pas employé les mots « blaireau » ni « chair à canon ». C'était mon esprit qui avait traduit les expressions qu'il avait utilisées.
« Ils aiment que les combats se terminent vite. »
Comme lors du grand tournoi de la NCAA, quand le premier joue contre le 16e, pensais-je. On passa de nouveau devant la loge VIP. Et cette fois, c'est moi qui montrais mon pouce dressé aux gens élégants qui nous regardaient. Quand ils n'étaient pas occupés à bavarder entre eux, du moins. Car on voyait que leur sujet de discussion importait plus à leurs yeux que ces pauvres types en haillons à bout de souffle. On n'était qu'un prétexte pour se réunir, comme les personnes de chez moi qui venaient assister aux entraînements de football. Derrière nous, le groupe de coureurs s'était étiré, et deux prisonniers, Double et un dénommé Yano, avaient rejoint Ahmet sur les bancs.
« Combien sont-ils ? » ?»« Qui ?»
Ayota crachait ses tripes lui aussi maintenant. Moi, j'avais encore du souffle.
Les sujets d'Elden !
Il appuya sur le mot « sujet » comme s'il le mettait entre guillemets.
Je sais pas. 20, 30 peut-être, ou un peu plus. Cette salope se prend pour la reine parce que c'est la favorite de Flight Killer.
Petra?
Oui.
Et c'est tout? Avant qu'il puisse répondre, mon vieil ennemi Aaron émergea d'un passage sous la loge VIP, agitant sa badine à la manière d'un chef d'orchestre sur son estrade.
« Tout le monde sur le terrain !»
aboya-t-il. Ayota trottina vers le matériel disposé au centre de la pelouse et je le rejoignis. La plupart des prisonniers frôlaient l'apoplexie. Jaya et Eris étaient pliés en deux, les mains sur les genoux, essayant de reprendre leur respiration. Ils allaient retrouver les autres déjà assis près de la table sur laquelle se trouvaient les petites tasses. J'en vidais une d'un trait. C'était de l'eau avec un petit quelque chose d'amer qui donnait un coup de fouet. J'avais encore du souffle, mais après avoir bu ce breuvage, j'en avais encore plus. En comptant Aaron, il y avait maintenant 5 soldats de la nuit sur le terrain, disposés en demi-cercle devant nous. 2 autres veillaient sur les VIP. Ceux qui montaient la garde sur les parapets étaient faciles à compter en raison de leurs auras d'un bleu éclatant. 12. Soit 19 en tout. Ce qui correspondait quasiment au nombre de soldats de la nuit qui nous avaient pourchassés, Radar et moi, alors qu'on fonçait vers la porte de la ville. 20, en ajoutant Kellyn, qui n'était pas là, ou qui nous observait d'un des parapets. C'était tout. Dans ce cas, les prisonniers étaient plus nombreux que les gardes. Je ne voulais pas poser la question, car Aaron semblait me surveiller.
« Chouette course !»
commenta Stooks.
« Mieux que du sexe !»
ajouta Frémy.
« Sauf avec toi !»«
C'est vrai !»
admit Frémy.
« Tu es doué pour le sexe !»
Je voulus prendre une deuxième tasse, mais un des gardes pointa sa badine sur moi.
« Non, non, un seul article par client, petit !»
Évidemment, j'étais certain qu'il n'avait pas dit ça.